Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, et vraiment désolé pour le retard, on a un peu pris de retard. Il est exactement 18h10, nous sommes en direct, première journée du MIPIM. Ça a été assez intense aujourd'hui, en tout cas on est ravis puisqu'on a eu beaucoup beaucoup de choses à vous dire et je l'attendais aujourd'hui, il est avec nous sur le plateau et merci à lui d'avoir patienté parce qu'il devait passer il y a quasiment pratiquement une petite heure et c'est Philippe Chiambaretta qui est avec nous, architecte, PCA Stream, c'est son agence aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir plutôt.
Oui,
comment
bonsoir.
Ça va Philippe?
Ben, ça va très bien.
On s'est vu il y a quelques jours pour cette preview dans nos studios à Paris, alors... Je sais qu'il n'aime pas qu'on lui dise ça, bon, que c'est une star dans le métier, qu'il est très connu, etc., etc. Mais en tout cas, on ne cesse de me parler de vous. Et voilà, j'ai envie de parler de ce projet. Vous avez été qualifié pour les MIPIM Awards. Les résultats sont donnés jeudi soir, me semble-t-il, pour le Stream Building.
Oui.
On en a parlé. Parlez-nous de ce projet qui finalement est un peu fou. Alors, je rappelle qu'il y avait 45 postulants. Que vous avez pitché, vous avez été lauréat de ce concours.
Alors oui, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, ce Stream Building, parce que, comme son nom l'indique, il y a Stream dans son nom, dans Stream Building, c'est l'immeuble Stream. Le nom de l'agence, c'est PCA Stream, et c'est la partie réflexion, recherche, R&D, que j'ai entamée il y a une vingtaine d'années maintenant, à côté de la partie construction. Hein, on a cette envie, cette idée... pour dire prétention parfois, mais être à la fois un think tank et un do tank. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut que, aujourd'hui, on ne peut pas construire sans faire un vrai travail de recherche. Quand je dis recherche, c'est pas gribouiller ou chercher en dessinant quel est le projet qu'on va faire. C'est vraiment de la recherche scientifique avec tout ce que ça implique comme méthodologie. Je crois que la ville, aujourd'hui, nécessite ça. Et donc, quand il y a eu ce concours Réinventer Paris en 2015 qui a été lancé, avec ce défi qu'a lancé la ville de Paris, de dire on va vendre des terrains, non pas aux plus offrants, mais aux mieux offrants. En tout cas, à des groupements qui vont... faire preuve d'innovation sur l'angle programmatique, constructif, sur l'intégration des enjeux environnementaux, etc. Et donc, on a été sollicité par un investisseur qui nous a proposé de répondre à cette consultation. Donc, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès à l'époque. Il y a eu chaque projet, il y avait à peu près sur chaque site vendu par la ville, à peu près 45 concurrents,
ah, comme oui, tu viens de dire.
Et donc, en nous proposant d'être vraiment, de faire le programme, le modèle économique, de trouver des exploitants et de faire l'architecture et eux de financer. Donc, je dis chiche, on y va. Mais alors, du coup, ce sera un peu un projet concept qui portera le nom si on gagne. Ce sera le Stream Building. Et on a eu la chance d'être lauréat. Et maintenant, cet immeuble est terminé. Il est entièrement loué, exploité. Et c'est pour moi un projet donc, qui est un manifeste. Et donc, je serais heureux voilà. Si...
En je plus, vais montrer à la caméra. Je demanderai à Jason de nous faire quelques images là, directement. C'est au Batignolles. Hein.
C'est à la porte de Clichy, dans la Batignolles. C'est juste le bâtiment qui est au pied du tribunal de grande instance de Renzo Piano, donc qui referme cette place qui n'existait pas hein, il y a, en 2015. C'était un peu un terrain vague. Et donc là, on est le troisième côté de la place qui...
PCA Stream, donc l'agence Stream Building. Est-ce que c'est une marque maintenant, Stream? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez décliner dans la touche, finalement? Alors, je sais que vous n'aimez pas trop que je prononce le mot « geste ». Vous savez, quand je vous ai posé la question du geste architectural. Mais vous avez finalement la réflexion, vous avez raison. Mais justement, de ce que vous entreprenez, puisque vous avez la particularité d'être un homme d'entreprise au sens de la création. Mais pas que, mais aussi au sens de la transmission, notamment avec l'investissement que vous faites, je fais un néologisme, sur l'université PSL. Philippe, le souci de la créativité et de la recherche, de l'innovation, c'est presque une vision académique et j'allais dire même d'ingénierie, de recherche quasi scientifique, et en même temps ce souci que vous avez à cœur de la transmission.
Vous savez que j'ai effectivement, je suis arrivé tardivement à l'architecture après une longue formation plutôt dans les sciences et les mathématiques, puis la physique. Et en fait, donc, j'ai quand même eu ce background de rationalité et de recherche plus technique et plus scientifique. Mais j'avais en moi cette envie d'être plutôt un créateur. Et tardivement, au biais d'une rencontre qui m'a transformé avec cet architecte catalan qui s'appelait Ricardo Bofill, qui m'a engagé à l'âge de 30 ans, alors que je sortais de mes grandes écoles et que je faisais des conseils en stratégie où je m'emmerdais ferme. mais voilà, je donnais des conseils à Nissan de savoir quelle voiture vendre en France et en Europe dans les 10 prochaines années. Je déteste la voiture, donc c'était vraiment, je me demandais ce que je faisais là. Et puis j'ai eu le plaisir, donc j'ai tout abandonné, je me suis mis à peindre. Donc j'étais artiste.
À peindre.
Oui, j'ai vécu pendant 2 ans dans cette idée d'être.
Mais vous ne me l'aviez pas dit, ça.
Non, mais je vous ai pas tout dit. Et donc, l'architecture, quand Bofill m'a engagé, il m'a dit c'est bien la peinture, mais l'architecture, c'est encore plus grand. Et donc, en fait, je l'ai vécu comme étant ce point de rencontre entre l'art et les sciences. Donc, pour moi, l'architecture, c'est ce point de rencontre art, science. Et donc, ça veut dire que. À ce moment-là, on peut le regarder tout à fait différemment. C'est plus le travail. C'est pour ça que j'aime pas cette notion de geste, parce que ça fait appel à la figure de l'auteur, de un petit peu comme ça, du créateur génial.
Ah oui, je comprends.
Voilà. Mais or, en réalité,
il y en a quand même eu quelques-uns. Hein.
Il y en a eu quelques-uns, mais
il s'appelait Léonard, d'autres.
Alors, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Ça, c'était la Renaissance.
Oui.
C'était non. Je suis plus critique sur une période plus récente qui a démarré à la fin des années 90.
Ah, je suis d'accord. Hein, oui.
Fin des années 90, début des années 2000. En fait, il y a toute une vague des stars architectes. Et quand on regarde les raisons de ça, il y a des vraies raisons objectives qui sont économiques. C'est-à-dire qu'on fabrique une marque. Et donc, c'est intéressant pour les villes. Dans ce coup, ça a démarré avec Bilbao. On fabrique avec Guéry, dans ce coup, une signature. Et donc, ça fait de la pub. Mais je pense que cette période-là est terminée et que les enjeux auxquels on fait face et auxquels on doit répondre en tant qu'architecte sont beaucoup plus complexes, doivent dépasser des sujets d'ego. Enfin, l'ego, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est l'appétit.
Mais vous évoquez quoi ? Vous évoquez l'intelligence collective ?
J'évoque bien sûr l'intelligence collective. On est aujourd'hui une
agence de 100 personnes. Donc quelque chose qui n'est pas uniquement porté que par un homme, mais aussi une assemblée de cerveaux, finalement, au sens de ce que décrivait Michel Serre dans son livre Le Tir Instruit il y a une vingtaine d'années, guidé par quelqu'un qui a quand même cet état d'esprit de leader et qui embarque. Parce qu'encore faut-il, dans ce que vous dites, faire adopter ce que vous pensez à d'autres pour vous y aider.
Oui, oui, mais du coup, ce rôle de leader et d'être celui qui va montrer, ouvrir la voie et embarquer avec lui, choisir les gens qu'il associe dans cette démarche et petit à petit aussi les former ensemble dans une démarche véritablement d'intelligence collective, c'est un autre projet que celui d'être un chef d'atelier ou d'être comme ça une diva qui a des collaborateurs qui grattent les idées géniales que l'on peut avoir.
Diva, il y en a, ça c'est, je vous le confirme, j'en ai même interviewé quelques-uns qui étaient des leaders. Alors on ne revient pas sur l'excellence de leur métier, mais ce qui est intéressant, c'est l'extension que vous donnez. J'aimerais qu'on reparle de l'université PSL, si vous voulez bien.
Oui.
Cette transmission. Pourquoi vous avez ce souci de la transmission du savoir ? Pourquoi ça vous touche ?
Parce qu'en réalité, c'est qu'aujourd'hui, avant de le transmettre, il faut le créer. Il y a actuellement...
Oui. Vous avez créé une chaire, hein, pour rappeler. Vous créez une chaire.
J'ai créé une chaire. Cette chaire, elle est venue... Elle est venue d'échanges que j'ai eu avec le Collège de France et avec Normal Sup, donc ils sont deux membres de l'université PSL. PSL, c'est une université donc, qui regroupe toutes les écoles de la montagne Sainte-Geneviève, donc c'est Normal Sup, c'est les Mines de Paris, c'est aussi les Arts Déco, c'est aussi la FEMIS, c'est aussi Paris-Malaquais, le Collège de France, Dauphine, donc toutes ces écoles-là sont en train de réfléchir au fait qu'il faut dépasser les silos de la connaissance et développer une connaissance transdisciplinaire. Là, c'est plutôt à Edgar Morin que ça renvoie. Donc, cette idée de reliance des savoirs. Et donc, l'idée de ce projet de ville métabolisme qu'on a développé à l'agence depuis 4 ou 5 ans, en fait, les a séduits parce que c'est une façon de dire la ville est aujourd'hui le maximum de complexité qu'on peut imaginer. C'est-à-dire ce sont des systèmes complexes, dynamiques, qui font, qui peuvent...
Mais ce sont des organes vivants ? C'est un métabolisme lent ?
C'est cette proposition que l'on a élaborée, qui est de proposer un changement de paradigme dans le regard qu'on a sur à la fois l'architecture ou l'ensemble de l'immeuble et donc la ville, qui de plus le regarder comme simplement des collections d'objets, mais vraiment comme un métabolisme qui, c'est-à-dire vivant, qui va avoir des questions de santé, de bien-être. Et donc, c'est changer complètement le prisme en se disant, et c'est ce qu'on avait proposé à partir du territoire des Champs-Élysées comme exemple, en disant, bah, si d'un seul coup on commence à regarder ce morceau de ville dans cette dimension de santé et de bien-être, et de se positionner plus comme des médecins et des chercheurs pour essayer de comprendre quelle est la pathologie qui, dont souffre ce quartier, quelle est à ce moment-là la connaissance, la médecine que l'on doit imaginer, la médecine quand on regarde ce qu'est par
une
exemple...
Médecine, mais une médecine qui serait plutôt curative ou préventive du coup ?
Les deux, c'est-à-dire qu'en fait pour... ça démarre par un diagnostic, donc ça démarre par une compréhension du système. Donc on a élaboré un cadre conceptuel en disant qu'est-ce qui constitue la ville. Ce sont des sous-systèmes, des organes. Enfin, donc on a élaboré une théorie sur les 5 ou 6 strates qui façonnent la ville et imaginer qu'à partir de l'interaction qui est entre ces strates, que ce soit ce qui est la nature, ce qui est à la base, ce qui va être le sol, la faune, la flore, avant que l'homme intervienne, construit des infrastructures, pardon, des usages, des architectures, des mobilités, et tout ça fait un système. Ce système va être plus ou moins en bonne santé. Et quand je dis en bonne santé, aujourd'hui, on vise quelque chose de très particulier, c'est le bien-être des humains à l'intérieur, mais aussi le bien-être de l'environnement. Et donc, les soucis que l'on a aujourd'hui d'environnement avec cette ère nouvelle dans laquelle on est rentré, qui a été pour moi la grande prise de conscience, cette idée d'anthropocène, qui remonte, enfin, qu'on a découvert en 2000, mais que l'architecture a découvert, le monde de l'architecture a découvert à peine dans les années 2015. Cette idée que Sapiens est désormais devenu une espèce vivante qui a un impact sur l'équilibre planétaire, c'est quelque chose qui est quand même une révolution anthropologique fondamentale. C'est-à-dire que c'est un changement de rapport au monde qui transforme totalement notre compréhension, notre place sur Terre et bien évidemment la façon dont on fait ce métier magnifique mais alors, humble qui est d'habiter la planète.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est très intéressant parce qu'on est au cœur du sujet. L'anthropologie et la démographie, c'est le sujet majeur de la planète d'aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, dans ce que vous dites, je vois ce que j'entends. J'entends que l'homme finalement parachève, sans faire de spiritualité, la création ou ce qui lui est donné. Dans ce qu'il a de plus beau, puisqu'il parachève finalement quelque chose qui est brut. Hein, c'est un peu cette pierre brute que parachevée par le geste de l'homme. Et en même temps, il est son plus pire ennemi. Et donc, cette anthropologie urbaine, nouvelle, nous pousse aujourd'hui à nous poser des questions. Faut quand même imaginer. Moi, je suis de la même génération que vous. Vous m'auriez dit neutralité carbone 2050, je vous aurais rayonné. Je vous aurais dit, on vivra, vous et moi, si tout va bien, la fin des moteurs thermiques. Je vous aurais rayonné aussi. Est-ce qu'on l'aurait imaginé, vous et moi, franchement, Philippe, si en 1983 ou 85, je vous avais dit, on vivra peut-être la fin des voitures thermiques ou des énergies fossiles? Moi, j'y croyais pas une seconde.
Ah, c'est sûr qu'on n'aurait pas
pu l'imaginer. Et si on vous avait dit qu'un immeuble peut être, par exemple, par destination, une arme qui dégrade la santé publique, vous l'auriez cru aussi? Pas forcément.
Non, bah c'est précisément parce qu'il y a eu toute cette prise de conscience qui pour moi, et donc les gens qui travaillent avec moi, a été le résultat du travail qu'on a fait au travers de livres. C'est-à-dire que chaque fois qu'on produit un livre, c'est 3 ans de travail où on rencontre des penseurs, des chercheurs, des scientifiques, des créateurs, dans plein de domaines différents, et un peu partout dans le monde. On a écrit un bouquin en 2014 qui s'appelait « Habiter l'Anthropocène », dans lequel on a, au travers de 35 contributions, aborder cette idée, qui était cette prise de conscience, effectivement, qu'aujourd'hui, cette espèce qu'est l'humanité a un impact sur le système Terre, ce qui était inimaginable. Et en fait, surtout qu'on pensait que finalement, tout ça était une sorte de ressource infinie dans laquelle on pouvait taper à volonté pour notre confort. Et ce changement de position, de regard, est effectivement une chose qu'on ne pouvait pas imaginer dans les années 80, où on nous parlait de... Voilà, de sociétés développées, de pays sous-développés, et que tout le monde
avait. Il y a d'ailleurs des philosophes qui ont même écrit sur le sujet. Hein. Son nom va me revenir, mais j'avais lu Le désastre urbain de Thierry Pacot. Hein, justement, où dans lequel, effectivement, il, dès très tôt, il dit qu'il faudrait écologiser les conseils municipaux pour qu'on ait une vision intégrée de la ville. C'est intéressant, parce que quand vous parlez de métabolisme, il évoque cette notion de métabolisme lent, d'organe vivant, finalement, quelque part. Mais il y a quand même, dans la fabrication de la ville, un effet délétère, qui est un effet délétère sur l'environnement, qui a un effet délétère sur les terres arables, par exemple. Et on se pose la question de savoir comment on logera tous ces humains. Est-ce que, finalement, la réponse de l'urbanité, de cette nouvelle urbanité, bon, parce qu'on je crois qu'en 2050, plus de 80% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Est-ce qu'on ne serait pas confronté à quelque chose qui, finalement, dans une terre comme la nôtre, est fini par nature, fini par le fini, par le fait qu'on n'est que sur une planète qui est ronde et qui ne pourra pas s'étendre plus que ça?
Je pense que sur le diagnostic et le problème, aujourd'hui, toute personne un peu raisonnable et raisonné, a compris.
Oui, vous savez que ça fait un peu peur quand même. Hein, parce qu'on pourrait se dire contrôle des naissances, on pourrait se dire régulation de la démographie. Enfin, il y a des choses comme ça qui font un peu flipper. Hein, quand
oui,
même.
Oui, mais non, mais ça fait flipper, c'est normal. Enfin, c'est simple. Hein, vous faites le produit finalement de l'humanité, le nombre de, et puis multiplié par leur impact environnemental, qui n'est pas le même, effectivement, si on est aux États-Unis, si on est en Afrique, où on va avoir des traces environnementales qui ne seront pas les mêmes. Mais quand vous faites la somme de tout ça, effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on a connaissance et avec certitude maintenant que de l'impact, des conséquences que ça a. Mais comment on soigne, comment on arrive à révolutionner nos modes de vie à l'échelle globale pour faire en sorte qu'on rentre en dessous des seuils acceptables, personne ne le sait, d'où la nécessité d'une nouvelle médecine.
Philippe, on vit... alors, je fais un petit peu un écart dans l'analyse, mais on vit une période inédite hein, en Europe que j'appellerais le repli identitaire. Mm-hmm. Un retour des nationalismes, qui d'ailleurs se voit dans une certaine forme d'architecture, c'est assez phénoménal. Il y avait déjà une analyse extrêmement intelligente qui avait été faite sur l'architecture qui avait été menée, la fabrication de l'architecture qui a été menée par des chercheurs dans les années 50 et 60 sur ce qu'avaient fait les nazis pendant la période. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment ça peut s'illustrer. On vit une période où on parle de problématiques fondamentales de la pression hydrique, notamment en Afrique subsaharienne. On parle par exemple que les Chinois par exemple, vont développer des cultures arables dans des pays de l'Afrique, dans des pays de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, pour se nourrir eux-mêmes, parce que gagnés par une partie du désert qui grignote les territoires chinois. On a l'impression que finalement que cette planète rétrécit et que la place de la ville devient tantôt, selon la façon dont les hommes se gouvernent, des lieux qui peuvent être confiscatoires de toute forme de liberté ou même de pensée. N'y a-t-il pas finalement, dans une période aussi trouble que la nôtre, parce qu'elle l'est réellement, mm-hmm. l'occasion pour des personnes comme vous, justement, de mettre à profit tout ce qu'on a acquis comme expérience pour que cette ville soit, au lieu d'être un vecteur de repli identitaire, plutôt un vecteur d'ouverture. Toutes ces mixités auxquelles on croit ou auxquelles on parle, je sais que vous êtes branché aussi là-dessus, sur cet humanisme-là, est-ce qu'on y arrivera ou est-ce que finalement, quelque part, on restera toujours avec cette idée peut-être utopique d'une cité rêvée à la Thomas More, vous savez, mm-hmm. Dans son livre Utopia. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis certain que vous avez lu ce livre magnifique qui avait été écrit quand même à l'époque de la Renaissance.
Mmh. J'ai même écrit participé à un ouvrage qui s'appelait « Ville rêvée
ouais. ».
Dans les années 90, je crois, j'avais eu l'occasion sur ce thème-là d'aller interviewer pas mal de grands architectes de l'époque. Donc effectivement, cette ville rêvée qui est quand même... une utopia, c'est-à-dire qui n'existe nulle part. Aujourd'hui, on est face à une chose qui est très réelle, qui est très concrète ici, c'est-à-dire que quand Thomas More écrivait l'utopia, il faut voir qu'en 1800, il y avait 5% de la population mondiale à peu près qui vivait en ville, hein, et 95% vivaient dans les campagnes. Et donc, ce qui s'est passé... La grande accélération qui s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu exploser complètement à la fois la démographie et à la fois le pourcentage de gens qui vivent en ville, fait qu'aujourd'hui, sur 2% de la surface de la planète, on a 85% de toute la pollution et l'impact carbone. Là. Donc c'est une toute petite surface, mais qui génère énormément, enfin une très très grande majorité de ces impacts. Donc inventer les systèmes villes de demain, c'est un défi sur lequel il faut être, face auquel il faut être très humble. Et quand on démarre une chaire sur 4 ans, qui sera peut-être reconduite encore 4 années de plus, ou encore au-delà, je pense un travail de longue haleine pour essayer de comprendre...
Vous avez de l'espoir, vous, en tant qu'architecte, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes confiant dans cette dimension humaniste, vous y voyez quelque chose qui...
Je suis assez inquiet, sincèrement, sur la... Je suis assez inquiet parce qu'en fait, il faudrait, de toute évidence, une sagesse globale qui permettrait de comprendre ces mécanismes et de les réguler différemment. Or, aujourd'hui, nous assistons effectivement plutôt à un repli identitaire par la peur. Donc, les choses ne vont pas dans le bon sens. Il y avait ce très beau livre de Bruno Latour qui s'appelait « Où atterrir ?», dans lequel il y avait la logique intéressante de dire dans la période moderne, même si nous n'avons jamais été modernes, il y avait cette idée que le global était une bonne chose et que le local était une mauvaise chose, parce qu'en fait c'était le lieu de tous les archaïsmes et du repli identitaire. Et donc il ouvrait la porte sur la réflexion qui est de dire il y a peut-être un bon global, celui d'une pensée planétaire, et un mauvais global qui est celui de la globalisation avec ce que vous avez comme impact négatif sur la globalisation économique, et un bon local qui est celui d'un retour aux racines, mais dans un sens non pas de repli sur soi, mais de renouer avec ce qui est de meilleur, de local, et qu'on voit aujourd'hui qui est une problématique aussi environnementale de circuits courts et de régionalisme dans un aspect positif. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que ça prend une tournure plutôt du mauvais local, où on revient à un repli sur soi.
D'où l'importance de vous écouter souvent. Donc je vais refaire la même chose que j'ai fait en studio, Philippe. Accepteriez-vous de revenir régulièrement sur nos antennes pour nous parler un peu? Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que ça illustre bien le propos. Vous voyez, ça devient extrêmement lumineux dans la façon de l'analyser, avec finalement toutes les contingences auxquelles on peut percer. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation, et je clôturerai cette interview là-dessus, où Victor Hugo disait la chose suivante: « Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Et finalement, je trouve que ça vous va assez bien. Je vous avais déjà fait celle de Diderot. Il fallait que je vous fasse celle de Victor Hugo. Voilà. En tout cas, je vote pour vous. Moi, je dis pour le projet Stream Building, un formidable projet. On va aller d'ailleurs avec nos caméras, si on peut y aller, faire des photos et faire quelques podcasts justement sur cette formidable initiative. PCA Stream, c'est votre agence aujourd'hui qui est absolument ancré dans la réalité. Vous êtes également engagé dans la création de cette chaire à l'université PSL. Je gage qu'on en parlera beaucoup dans les semaines, les mois à venir. Merci Philippe Chiambaretta.
Merci
d'être
beaucoup.
Passé par le plateau de Radio Imo. Excusez-nous encore du retard que nous avons eu. Cette émission est à récupérer en podcast, comme d'habitude, sur le replay de Radio Imo. N'oubliez pas, votez PCA Stream. Philippe Chiambaretta qui, jeudi soir, sera primé au MIPIM Award. Allez, je fais le pari.
Merci.
Je fais le pari. Si vous êtes à Cannes, ou même si vous n'êtes pas, vous m'envoyez un texto le vendredi matin et on fêtera ça dignement. À tout de suite.
Merci.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo.